Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Principe Actif. Donc aujourd'hui, c'est une émission très spéciale, puisque bien sûr, tout le monde a remarqué que c'est aussi un jour très spécial, vu qu'on est le 25 décembre, le jour de Noël. Donc voilà, nous, fidèles au poste, les militants d'Amnesty International, on fait notre émission, notre dernière émission du mois de décembre. Et donc, pour l'animer avec moi aujourd'hui, il y a Clara.
Bonjour.
Clara, qui était déjà venue il y a quelques mois au micro, mais qu'on n'avait pas revu depuis, entendu du moins depuis un certain temps. Et puis il y a Ronan, à la technique.
Bonjour.
Qui libérait ses obligations professionnelles et a pu revenir avec nous. Ça faisait longtemps aussi qu'il n'était pas venu animer une émission.
Depuis le mois de septembre, je ne participe plus malheureusement à aucune émission.
Voilà, comme quoi le jour de Noël, eh bien, on retrouve les fidèles au poste dans tous les sens, derrière le micro ou de l'autre côté du poste. Voilà, aujourd'hui, pour Noël, on va faire une émission très spéciale avec un peu plus de musique que d'habitude, parce qu'évidemment, c'est important aussi de l'esprit de la fête. Et puis, également, on va centrer l'émission exclusivement sur des bonnes nouvelles, parce qu'Amnesty, on défend les droits humains, et quand on défend les droits humains, on obtient régulièrement des bonnes nouvelles, heureusement, sinon, effectivement, ce serait compliqué pour continuer à militer. Mais on obtient régulièrement des bonnes nouvelles et ce soir, on a décidé de centrer l'émission sur ces bonnes nouvelles. Donc, on va vous en faire part de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, des bonnes nouvelles pour la progression des droits humains, on en obtient à longueur d'année. Voilà. Juste une petite information pour commencer, qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais qui me paraissait importante de donner à tous ceux qui nous écoutent. Suite à de l'actualité en France et au mouvement des Gilets jaunes, et à toutes les manifestations et à toutes les violences et les heurts qui se sont déroulées pendant les manifestations, on vous signale qu'il y a un communiqué, alors je vous renvoie sur le site d'Amnesty, hein, je ne vais pas vous le lire au micro, mais il y a un communiqué qui a été publié là très récemment au mois de décembre par Amnesty France, et qui précise que Amnesty a fait le constat que les forces de police avaient malheureusement beaucoup trop souvent utilisé une force excessive pour maintenir l'ordre. Voilà, donc Amnesty rappelle que les forces de police, bien sûr, doivent maintenir un ordre public qui permette à chacun de vivre, de mener une vie normale, même lorsqu'il y a des mouvements, mais que cela ne les autorise pas à tirer des flashballs en pleine face et à bout portant comme ils l'ont fait, par exemple, et ne les autorise pas à utiliser des moyens qui aboutissent à ce que des gens perdent des mains ou perdent des yeux, comme c'est arrivé aussi. Donc voilà, donc ça s'appelle un usage excessif de la force, et cela a été dénoncé par Amnesty dans un communiqué qui est paru très récemment. On vous renvoie au site, donc encore une fois, amnesty.fr, pour le lire en entier. Voilà. On va commencer donc à vous parler des bonnes nouvelles de l'année 2018 qui touche à sa fin. Et c'est Clara qui va commencer à vous en parler. C'est un petit communiqué très bien fait qui a été établi par Amnesty et qui fait une compilation de cette année 2018 écoulée.
Alors, au cours de l'année écoulée, près de 7 millions de sympathisants et sympathisantes d'Amnesty International se sont mobilisés en manifestant, en écrivant, signant des pétitions, etc. Pour défendre et faire mieux respecter les droits humains partout dans le monde. Cela a eu un impact énorme. Des personnes emprisonnées injustement ont été libérées, des lois ont été modifiées et des gens courageux à travers le monde se sont levés pour passer à l'action. Préparez-vous à être inspirés par notre résumé des grandes victoires pour les droits humains 2018.
Alors, première série de bonnes nouvelles, on arrive au mois de février, donc 2018. En février, Teodora del Carmen Vázquez a enfin été libérée de prison au Salvador après qu'un tribunal a réduit la peine scandaleuse de 30 ans de réclusion prononcée à son encontre. Elle avait déjà passé 10 ans en prison après avoir accouché d'un enfant mort-né, ce qui lui a valu d'être inculpée et condamnée pour avortement, acte illégal au Salvador. De pétitions en manifestation, nous avons milité en sa faveur depuis 2015. Amnesty Norvège a même utilisé la radio, comme quoi on n'est pas les seuls à faire de la radio, pour envoyer un signal de détresse afin de sensibiliser les gens à cette affaire. Amnesty International continue de faire campagne pour la dépénalisation de l'avortement au Salvador en vue d'empêcher de nouvelles situations comme celle de Théodora, où les femmes sont punies au lieu de voir leurs droits reproductifs protégés. Et je me permets de faire un tout petit complément à cette information. C'est un communiqué qui est sorti hier, la semaine dernière, du moins, qui précise qu'en fait, Théodora, les charges contre Théodora ont été levées. Et en fait, elle est complètement innocentée de cette inculpation d'avortement qui lui avait été prononcée. Voilà.
Alors moi, je vais continuer. Ce coup-là, ça sera au Mexique. Alors je vais éviter de dire le nom des gens, parce que franchement, je n'ai pas un très bon accent. Donc, il s'appelle Sergio. Je ne dirai pas son nom de famille, parce que je ne sais pas le prononcer. Il a été libéré de prison après y avoir passé près de 8 ans pour meurtre. Cet homme a été condamné sur la base d'éléments à charge faux et incohérents à l'issue d'un procès entaché d'irrégularités. Selon ses avocats, le travail des sympathisants et sympathisantes d'Amnesty qui ont participé à des manifestations ont été fondamentales dans sa libération.
Alors, après, nous avons appris la remise en liberté de plusieurs militants, journalistes et blogueurs détenus en Éthiopie, dont le prisonnier d'opinion adopté par Amnesty International, Ekinzer Nega. Toi, moi, Clara, je me lance à lire des noms d'Éthiopiens.
Moi, j'essayerai pas.
des sympathisants je la comprends, c'est d'Amnesty pas toujours facile. Lui ont envoyé de nombreux messages qui ne sont pas passés inaperçus. Alors, il dit « Ma famille m'a remis des lettres de soutien d'Amnesty International. Elles m'ont aidé à garder le moral et ont redonné espoir à mes proches. »
En Ukraine, le gouvernement a approuvé un nouveau programme de l'enseignement primaire qui contient pour la première fois un volet consacré aux droits humains. Ce résultat couronne le plaidoyer sans relâche d'Amnesty Ukraine et sa participation au groupe de travail chargé de mettre au point ce programme.
Au Bénin, la condamnation à mort de 14 prisonniers a été commuée à l'issue d'un travail de plaidoyer global mené par Amnesty. Nous avons rendu visite à des hommes en prison. Nous avons rencontré le ministre de la Justice et le président de l'Assemblée nationale pour réclamer la commutation de cette peine et nous avons diffusé une pétition en ligne et hors ligne. Plus tôt, des avancées ont été obtenues en Gambie où un moratoire sur les exécutions a été annoncé.
En mars, nous avons constaté le pouvoir de la solidarité en Ukraine après que la police a fermé les yeux sur les agissements de groupes qui ont menacé et agressé des manifestants et manifestantes en faveur des droits des femmes. Les autorités ont accusé à tort Olena, je ne dirai pas son nom de famille, l'une des organisatrices de cet événement, d'avoir enfreint les règles relatives au rassemblement public en raison d'une banderole provocante portée par certaines personnes qui défilaient. Amnesty Ukraine a envoyé un appel sur les réseaux sociaux qui a atteint des milliers de personnes. Le 15 mars, jour de procès, le tribunal a été rempli de journalistes, de sympathisantes, de représentants, tout masculin, féminin, d'ambassades étrangères. Le tribunal a statué qu'Olena n'avait commis aucune infraction et a classé l'affaire.
En avril, nous avons reçu de rares bonnes nouvelles du Myanmar. Myanmar, Renan, c'est où déjà ? C'est quoi l'autre nom du Myanmar qui parle ?
C'est la Birmanie.
C'est la Birmanie, voilà.
T'as voulu m'avoir, là ?
Non, j'ai pas voulu t'avoir. Donc, nous avons reçu de rares bonnes nouvelles, on sait ce qui s'y passe, hein, au Myanmar, lorsque le nouveau président, Win Myint, a gracié 8000 personnes, dont de nombreux prisonniers d'opinion. Parmi eux figurent les pasteurs Kachin Dubang Nun Lat et Nyangman Gam Seng, ainsi que Lapai Gam, pour lesquels nous avions fait campagne afin d'obtenir leur libération.
Début avril, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a statué que les victimes civiles de la guerre, y compris les victimes de viol, ne devaient pas payer de frais de justice lorsque leur demande de réparation était rejetée. En collaboration avec Trial International, nous avons mené un long travail de plaidoyer en faveur de la suppression de ces frais. Cette décision pourrait encourager d'autres victimes à chercher à obtenir de justice et réparation.
Au mois de mai. Mais c'était Clara qui devait vous lire ça. On s'est trompé dans nos... Je vais redonner le papier parce qu'on s'est trompé dans notre partage des bonnes nouvelles. C'était Clara qui m'avait dit « Je veux le lire, je veux le lire. » Donc je ne veux surtout pas l'empêcher.
Comme vous le savez, je prends à cœur tout ce qui est avortement, droit des femmes et respect des femmes. Du coup, maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé au mois de mai. C'est extraordinaire, le résultat du référendum irlandais rejetant l'interdiction constitutionnelle de l'avortement représente une grande victoire pour les droits des femmes. C'est le fruit d'années de travail acharné mené par des militantes et militantes, y compris d'Amnesty International. En 2015, nous avons publié le rapport « Ce n'est pas une criminelle ». La loi sur l'avortement en Irlande et ses conséquences dans lesquelles nous avons rassemblé des informations sur les obstacles et la stigmatisation liée à l'avortement au travers de témoignages de femmes. En 2018, l'importance du pouvoir du peuple a été mise en avant une nouvelle fois, tandis que des hommes et des femmes rentraient en Irlande pour voter et faire entendre leur voix. C'est une campagne qui porte sur l'espoir, sur le fait de réaliser les droits des femmes à la santé et à la sécurité et d'en faire une priorité. C'est en soi un tournant incroyable. Catriona Graham, chargée de campagne irlandaise sur les droits des femmes.
Alors, nous nous réjouissons, toujours en mois de mai, nous nous réjouissons de la remise en liberté du dirigeant d'opposition et prisonnier d'opinion malaisien, Anwar Ibrahim, à l'issue du scrutin qui a vu Najib Razak battu par son mentor politique Mahathir Mohamad. Cet événement constitue un moment majeur pour les droits humains en Malaisie et offre un réel espoir de nouvelles réformes.
Fin mai, le Parlement du Burkina Faso a adopté un nouveau code pénal qui abolit véritablement la peine de mort.
Le ministre, toujours au mois de mai, le ministre moldave de l'Éducation a adopté un programme d'éducation aux droits humains élaboré par Amnesty Moldavie pour les écoles primaires et secondaires. Ce succès, pionnier dans la région, fait suite à une initiative pilote menée lors de l'année scolaire en cours, à laquelle ont participé près de 700 élèves de 22 écoles. Ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure, Clara, à propos de l'Ukraine, où là aussi un programme d'éducation aux droits humains avait été adopté par le ministère de l'Éducation nationale ukrainien. Voilà, c'est important l'éducation aux droits humains pour les générations qui viennent, de rester convaincus de l'importance de ce combat. Voilà, et il y a Renan qui participe aussi aux bonnes nouvelles, qui mon petit doigt me l'a soufflé à l'oreille, doit vous parler de l'évolution de l'abolition de la peine de mort.
Justement, c'est un record de vote contre la peine de mort. Lors de l'examen par la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies d'un projet de résolution demandant un moratoire sur le recours à la peine de mort, la communauté internationale a porté un soutien sans précédent à cet appel à mettre fin aux exécutions. C'est un record. Un total de 123 États membres de l'ONU, un record ce jour, a voté en faveur de la proposition illustrant ainsi la récente augmentation du nombre de pays ayant aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Le nombre total de votes en faveur de résolutions appelant les pays qui appliquent encore la peine de mort à instaurer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir ce châtiment est passé de 104 en 2017 à 117 en 2016. Une minorité de pays, 36 pays donc, a voté contre, tandis que 30 se sont abstenus. Pour la première fois, la République démocratique du Congo, la Dominique et la Malaisie, qui s'étaient toujours opposées à cette résolution, ont voté pour, tandis qu'Antigua et Barbuda est passé à l'opposition, à l'abstention. Tiens, ça se trouve où ça, Antigua et Barbuda, Didier ?
Je pense que c'est dans les Antilles, mais il faudrait vérifier. Je ne suis pas sûr à 100%, il faudrait vérifier. Je crois que c'est dans les Antilles.
Je pense que tu as raison. La Guinée équatoriale, la Gambie, Maurice, le Rwanda et les Seychelles ont de nouveau voté en faveur d'un moratoire sur les exécutions, ce qu'ils n'avaient pas fait en 2016. Seuls deux pays ont modifié leur vote de manière négative par rapport à décembre 2016. Le Bahreïn a voté contre alors qu'il s'était abstenu et le Suriname s'est abstenu alors qu'il avait voté pour. Cette augmentation du soutien apporté au projet de résolution indique une nouvelle fois que le monde continue d'avancer vers l'abolition à terme de la peine de mort. Depuis l'adoption en 2016 de la précédente résolution de l'Assemblée générale appelant à un moratoire, la Gambie, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont suspendu les exécutions. Cindy et d'autres pays ont pris d'importantes mesures allant dans ce sens. En 2017, la Guinée et la Mongolie ont aboli la peine de mort pour tous les crimes et le Guatemala est devenu abolitionniste pour les crimes de droit commun uniquement. Le Burkina Faso est le dernier pays en date à avoir retiré la peine de mort de son code pénal en juin 2018. Tandis qu'en septembre, la Gambie a ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. L'usage de la peine de mort est concentré dans un nombre restreint de pays. En 2017, les exécutions ont été signalées dans 22 États membres de l'ONU, soit 11% du nombre total de pays.
Renan a tourné sa page.
Et
on a entendu dans le micro.
Seuls 11 de ces pays, soit 6% des États dans ce monde, étaient des exécuteurs habituels, c'est-à-dire ayant procédé à des exécutions tous les ans au cours des 5 dernières années. Le fait que le principal organe délibératif de l'ONU continue d'adopter régulièrement des résolutions encourageant les États à mettre fin aux exécutions a renforcé les débats sur le problème de la peine de mort et a contribué à mettre en place des avancées nationales significatives en vue de son abolition. Depuis 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, avec le soutien d'un nombre croissant d'États de toutes les régions, 6 résolutions appelant tous les pays qui appliquent encore la peine de mort à instaurer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir ce châtiment. Nous appelons tous les États membres de l'ONU à soutenir ce projet de résolution lors de son adoption finale en décembre. Les pays qui appliquent encore la peine de mort doivent instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions à titre de première étape vers l'abolition totale de ce châtiment. Lorsque les Nations Unies ont été créées en 1945, seuls 8 pays avaient aboli la peine de mort. Aujourd'hui, 103 des 193 États membres de l'ONU l'ont aboli pour les crimes et 139 l'ont aboli en droit ou dans la pratique. En 2017, 170 États membres des Nations Unies, ce qui représente 88%, n'avaient procédé à aucune exécution. Bien qu'elles ne soient pas juridiquement contraignantes, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU ont un poids moral et politique considérable. L'adoption de ces résolutions novatrices a clairement fait de la peine de mort une des priorités de la communauté internationale en matière des droits humains et a généré une nouvelle dynamique au sein de la société civile et des gouvernements de toutes les régions en faveur de l'arrêt des exécutions et de l'abolition de ce châtiment dans la législation nationale.
Voilà, donc c'est ce qui fait dire, c'est un leitmotiv à Amnesty, mais ce qui fait dire encore plus que la peine de mort est condamnée à disparaître.
Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, on va s'écouter un petit peu de musique, on avait dit qu'on en passerait un peu plus aujourd'hui, jour de Noël.
Sitting in the tree, was it just a dream? I know, yes I know, it seems so very real, it seems so real to me. Down the street to the heat whispered trees, I thought I could hear somebody call out.
touching my soul. Something warm set a cold. The spirit dancers unfold.
Et bien de retour sur l'antenne de Principe Actif en ce jour de Noël, donc c'est Amnesty International Évreux. Et on vient d'écouter un morceau de, enfin, un morceau de John Lennon repris par REM qui s'appelle Nine Dream, un disque qui était sorti en soutien à Amnesty il y a déjà quelques années. Voilà, et bien il y a, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas dans notre conducteur, il y a Ronan qui doit vous parler aussi, lui, de son côté, de bonnes nouvelles, puisque c'est le morceau principal de l'émission, les bonnes nouvelles.
Alors, Love va partir en Angola. Afonso, 22 ans, et Antonio, soupçonné d'avoir jeté des pierres sur le convoi du vice-président lors d'une manifestation, avait été condamné à 7 mois d'emprisonnement en avril à l'issue d'un procès inique. La Cour suprême a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves et ils ont été libérés le 17 juillet. Elena, la sœur de Justino, a remercié Amnesty International, entre autres, pour sa campagne demandant la libération des trois jeunes. Maintenant, en Azerbaïdjan, la Cour suprême d'Azerbaïdjan a ordonné le 5 avril la libération d'Aziz Orujov, journaliste indépendant et dirigeant du Canal 13, une chaîne de télévision sur Internet. Il reste sous le coup d'une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Il était détenu dans des conditions inhumaines depuis mai 2017 sur la base d'accusations forgées de toutes pièces et Amnesty International pense que sa condamnation est uniquement liée à son travail pacifique de journaliste. En Corée du Sud, Lee Jin-young, militant travailliste et propriétaire de la bibliothèque en ligne Labour Book, a été déclaré non coupable par la Haute Cour de Séoul le 11 avril 2018. Le parquet avait fait appel d'une décision de juillet 2017 qu'il avait déjà innocenté. Il avait été inculpé en février d'infraction à la loi relative à la sécurité nationale pour avoir diffusé des documents qui auraient bénéficié à des organisations hostiles au gouvernement.
Bien, et bien autant de combats remportés avec l'aide d'Amnesty. Et justement, quand on parle de combats remportés avec l'aide d'Amnesty, et Amnesty dit toujours effectivement il faut continuer à s'engager à nos côtés, enfin, etc., pour les droits humains, c'est important. J'ai envie de demander à Clara qu'est-ce qui l'avait amené à s'intéresser déjà à la défense des droits humains et à Amnesty International, et qu'est-ce qui l'avait amené aussi, ce sera ma deuxième question, à se lancer dans la création d'une antenne jeune à son lycée, le lycée Aristide Briand à Évreux.
Alors, bonne question. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai été très vite baignée dans le bain Amnesty. Ma mère est donatrice depuis un peu plus de 20 ans. J'ai de la famille qui a travaillé dans tout ce qu'ONG. On en a beaucoup parlé. Donc, j'ai toujours un peu vu les lettres d'Amnesty chez moi, en jaune et tout. Ça m'a toujours un petit peu intriguée. Donc quand j'ai grandi, j'en ai parlé avec mes parents et ma mère m'a expliqué le combat mené par cette ONG. Donc il y a différentes formes pour défendre les droits. On peut être donatrice, s'engager ou juste être sympathisante. Et du coup, l'année de mes 16 ans, je me suis dit, c'est maintenant, je veux m'engager, c'est pour là. Je peux plus attendre maintenant. Et du coup, j'ai envoyé un message. Une lettre en fait, dans laquelle j'expliquais que je voulais m'engager dans cette ONG, que je savais pas trop comment faire, mais que je sentais que c'était le moment pour moi. Et j'ai eu un retour de lettre de la part de Françoise, qui m'a dit bah ok, tu peux venir à notre première réunion de groupe le 2 septembre. Et je suis venue et depuis ce jour-là, je suis restée ici.
Donc c'était, si je me rappelle bien, le 2 septembre 2017.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ça fait un an.
D'accord. Et donc ça, c'est une chose, c'est le choix personnel. Effectivement, on a tous connu nous-mêmes des motivations à droite et à gauche. Bon, je pourrais poser la même question à Ronan, mais bon, qu'est-ce qui l'a amené à Amnesty ou l'a posé à moi-même? Mais ce que je voulais demander aussi à Clara, donc comme je disais, c'est bon, de s'engager pour Amnesty, c'est une chose. Considérer que notre travail pour la défense des droits humains est fondamentalement important, ça, on en est tous convaincus. Mais qu'est-ce qui l'a amené aussi à vouloir, dans son propre lycée, essayer de mobiliser d'autres jeunes autour d'elle?
Bah déjà, en fait, j'aime bien être responsable de quelque chose, diriger. Je suis très directive dans ma vie, même si je suis une grande stressée, j'adore diriger. Et c'est en parlant bah, avec vous, avec les membres du groupe, que vous m'avez dit qu'il y avait ça qui était possible, de fonder une antenne jeune. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc bah voilà, ça fait un an maintenant. On a fait plusieurs actions. Je suis passée dans certaines classes. J'ai fait un petit peu de DH, éducation aux droits humains. On a fait les 10 jours pour signer l'an dernier. Et vraiment, c'était notre première action, les 10 jours. Et vraiment, je me suis dit, bah, c'est ça ce que je veux faire. Je veux vraiment continuer et continuer le plus possible. Bon, j'espère pas reprendre une année pour le bac, mais bon.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Clara passe le bac cette année. Donc évidemment, normalement, c'est ça, on lui souhaite que ce soit sa dernière année de lycée. Mais bon, je suis pas inquiet pour toi. Hein. Je pense que ça te posera pas de problème.
J'espère. Et du coup, bah voilà, j'ai fondé une antenne jeune avec ma meilleure copine, qui est la co-responsable. Et puis, bah, plus j'ai vu les gens signer, plus je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Il faut que je continue comme ça. Et ma plus grande fierté, ça a été quand une fille que je ne connaissais pas du tout, qui était en seconde, donc avait un an de moins que moi l'an dernier, qui m'a dit, ok, c'est bon, je me suis sentie utile, il faut que je le fasse aussi. Et voilà, une membre de plus à notre AJ.
Oui, ça c'est vrai que c'est important quand on milite, effectivement, d'avoir conscience que notre action sert à quelque chose. C'est pour ça qu'on vous lit beaucoup de bonnes nouvelles, effectivement, pour cette émission de Noël. Et on vous en, à chaque émission, de toute façon, on vous en cite quelques-unes. Mais ça, c'est important. Et comme Amnesty, c'est aussi un des leitmotifs qui revient toujours parmi les militants qui sont à Amnesty International, c'est de dire, bien sûr, quand on commence une action, on n'a jamais de garantie sur ce qu'on va obtenir, mais on sait très bien ce qui va se passer si on ne fait rien. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je pense que l'engagement de Clara, c'est tout à fait révélateur de, bah, contrairement à ce qu'on entend aussi souvent dire, oh, les jeunes sont indifférents, les jeunes pensent qu'à...
c'est qu'un stéréotype.
Voilà, tout à fait. Pensent qu'à leurs petites affaires personnelles et puis leurs blagues sur les pages Facebook ou des choses comme ça. En fait, c'est pas vrai du tout. Et non. Que toutes les générations qui se suivent sont toutes très, 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 très majoritairement révoltées par toutes les injustices, les crimes odieux, etc., etc., que ce soit sur le terrain des droits humains, que ce soit sur le terrain aussi de l'écologie, à l'heure actuelle, avec, on sait, les périls qui nous guettent au niveau de l'écologie, et les droits écologiques et les droits humains, on vous en a parlé dans des émissions récentes, pour nous, ce sont deux faces exactement de la même médaille. Donc, on parle de la même chose, et que tous ces engagements-là, ben, on les retrouve effectivement chez les gens de la génération de Clara. Une bonne preuve, c'est que les antennes jeunes à Amnesty, qui ont été créées il y a une petite dizaine d'années, je crois maintenant, sont en constante évolution et en constante progression, et qu'il y en a de plus en plus. Et que c'est important pour nous aussi de voir se mobiliser ce qu'on appelle toujours les jeunes générations. Ça n'a rien de péjoratif quand on dit ça. De lycéens ou d'étudiants venir militer avec nous et combattre avec nous. Voilà, ça c'est important. Donc ben merci Clara pour ces quelques confidences un peu plus personnelles. Et comme on parlait de bonnes nouvelles, je crois qu'il y avait Ronan qui devait vous en lire quelques-unes, ou c'était à nous avec Clara, je m'en rappelle plus très bien.
Je me lance.
En lire une et puis après on va reprendre avec Clara notre petite historique de l'année 2018.
Indonésie. Eri Budiawan, militant écologiste dit Budi Bego, a été libéré début juillet 2018. Il avait été condamné à 10 mois d'emprisonnement en janvier 2018 pour atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agissait de la première condamnation au titre de l'article interdisant l'idéologie communiste depuis la chute de Suharto en 1998. Eri Budiawan a remercié l'enthousiasme de toutes les personnes qui l'ont soutenu.
Voilà, mais nous on va reprendre avec Clara donc notre petit dialogue là sur les bonnes nouvelles, enfin la compilation de bonnes nouvelles 2018 qui émane de Amnesty France, et puis on va recommencer. On s'est arrêté à la fin du mois de mai,
ouais,
donc on va reprendre au début du mois de juin si je me trompe pas.
C'est exactement ça, on reprend au mois de juin. Donc à la suite de notre travail de grande ampleur en Syrie, la coalition menée par les États-Unis a enfin annoncé, a enfin annoncé qu'elle réexaminerait les affaires classées relatives aux victimes civiles. Cette coalition a d'abord nié et contesté nos conclusions sur les victimes civiles à Raqqa, avant que de nouveaux éléments soient apportés par nos enquêteurs et enquêtrices. Fin juillet, elle a reconnu 77 des 79 cas exposés dans notre rapport de juin et revu à la hausse ses chiffres sur les parties civiles à Raqqa, plus 300%. Nous continuons de penser qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Nous avons lancé un nouveau projet de décodeur appelé Strike Tracker et nous travaillerons en partenariat avec d'autres organisations afin de dresser un tableau plus complet des pertes civiles lors des attaques. Nous publierons nos conclusions début 2019.
Un petit point d'information par rapport à ce que vient de vous dire lire Clara. Ce travail d'Amnesty, effectivement, fait suite à au combat qui a eu lieu à Raqqa, en Syrie. Une ville qui a été particulièrement attaquée, enfin la population civile a été particulièrement visée par la coalition américaine, entre autres, pour déloger l'État islamique qui dirigeait cette région-là, en Syrie. Et Amnesty a fait le constat que pour les combats pour permettre la libération de cette ville avaient surtout amené à un grand massacre de la population civile. Donc on vous en avait déjà parlé aussi dans des émissions dans le courant de l'année. Et donc tout ce travail d'enquête a permis de montrer effectivement, le travail d'enquête d'Amnesty a permis de montrer qu'effectivement, là aussi, il y avait eu une utilisation très abusive des forces armées pour déloger l'État islamique, et que cette utilisation abusive avait conduit à des grands massacres de population civile. On rappelle que massacrer de la population civile volontairement, quelle que soit l'armée en cause, est un crime de guerre. Bien, nous continuons donc notre petite compilation de bonnes nouvelles. Toujours au mois de juin, nous avons diffusé un rapport majeur sur la reddition de comptes pour les crimes contre l'humanité commis contre les Rohingyas au Myanmar, Birmanie. Ce document évoque certaines unités militaires et des forces de sécurité précises et cite 13 hauts fonctionnaires soupçonnés de crimes contre l'humanité. Deux jours avant la publication, l'Union européenne a annoncé qu'elle prendrait des sanctions contre 7 responsables des forces de sécurité, dont 6 apparaissent sur notre liste.
Juillet, l'artiste Liu Xia a enfin été autorisé à quitter la Chine pour se rendre en Allemagne après presque 8 ans d'assignation à résidence illégale. Elle était ainsi détenue depuis que le prix Nobel de la paix a été attribué à son époux Liu Xiaobo en 2010. Durant cette période, elle a été étroitement surveillée par les agents de la sécurité de l'État et ne pouvait être contactée par téléphone que dans certaines circonstances. Plus tôt cette année, Amnesty International a lancé une campagne réclamant la libération de Liu Xia, pendant laquelle un grand nombre d'écrivains connus ont lu des extraits de poèmes de cette femme.
Alors, toujours en juillet, la Palestinienne Ahmed Tamimi, on a largement entendu parler, âgée de 17 ans, a été libérée 21 jours avant le terme de sa peine de 8 mois de prison. Le tribunal militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée, l'a injustement condamnée au motif qu'elle avait représenté une menace pour des soldats armés et portant un équipement de protection. On rappelle simplement que Ahmed Tamimi avait giflé un des soldats, et ce qui avait valu effectivement qu'elle aille en prison.
En Mauritanie, 2 militants contre l'esclavage ont été libérés après avoir purgé les 2/3 de leur peine d'emprisonnement des 3 ans. Abdelali Matalasek, voilà, je réitérerai pas l'expérience des noms de famille.
Si, mais tu l'as très bien prononcé.
Et Moussa Biram se sont entretenus avec nous. Je cite, « Votre soutien m'a donné le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans notre combat pour la justice en Mauritanie. J'aimerais exprimer ma gratitude à chaque membre d'Amnesty. Merci pour votre travail remarquable en faveur de la libération de militants contre l'esclavage en Mauritanie. Merci de vous battre contre les injustices. Nous sommes fiers de votre travail. »
Si je peux faire un petit commentaire sur ce que tu viens de dire, Clara, ça me rappelle tout à fait ce que tu as expliqué tout à l'heure par rapport aux motivations, à tes motivations pour Amnesty. Voilà ce genre de message, effectivement, qui nous donne envie de continuer.
Ah oui.
Ça, c'est clair. En Bosnie-Herzégovine, l'Assemblée nationale de la Republika Srpska, ça c'est dur à dire ça par contre, qui est en fait la République serbe de Bosnie-Herzégovine, a adopté la loi sur la protection des victimes de torture en temps de guerre, qui permettra enfin de reconnaître les victimes de violences sexuelles, y compris le viol, commises pendant le conflit, et de leur accorder réparation et soutien. Amnesty, avec ses partenaires locaux, milite depuis longtemps en faveur d'une telle loi afin de garantir à ces personnes l'accès à la justice et à la réparation.
Août, après avoir passé 735 jours derrière les barreaux, Teb Vani, militante bien connue qui se bat pour les droits fonciers et humains, a été remise en liberté. Elle fait partie du grand nombre de défenseurs des droits humains et de manifestants qui ont bénéficié d'une grâce royale au Cambodge. Condamnée alors qu'elle manifestait pacifiquement, cette femme a été libérée seulement 6 mois avant la fin de sa peine. Plus de 200 000 personnes à travers les globes ont participé à notre campagne en sa faveur.
Alors, oui, mais il y a Clara qui me montre quelque chose, mais je pense que c'est la suite de ce que tu viens de dire.
Désolée.
Non, ça fait rien, je vais le lire, c'est pas grave. Je remercie, c'est Teb Vani qui parle. Je remercie toutes les personnes qui ont milité pour ma libération et pour me permettre de retrouver mes enfants et mes parents. Vous avez été d'un grand réconfort et grâce à vous, je ne me suis pas senti seul. J'apprécie votre gentillesse et votre travail pour améliorer la situation des droits humains dans le monde. Voilà ce que donc nous a écrit Teb Vani. Bon, alors je vais continuer. Septembre, quelques jours après la diffusion d'une communication d'Amnesty International, 38 000 sympathisants sont passés à l'action en ligne pour dénoncer le placement en détention d'un grand nombre d'Ouïghours, de Kazakhs et d'autres personnes issues de minorités ethniques majoritairement musulmanes dans le nord-ouest de la Chine. Une petite parenthèse, dans une de nos dernières émissions, je crois que c'était la dernière d'ailleurs, avant celle-ci, il y a Edith qui vous en a parlé longuement de l'arrestation et de la détention des musulmans dans le nord-ouest de la Chine. Alors, nous nous sommes entretenus avec une Kazakh, qui est convaincue que la libération de sa fille de 13 ans est due à notre campagne en sa faveur. D'autre part, aux Émirats Arabes Unis, un Ouïghour a été remis en liberté à l'issue de notre campagne contre son renvoi forcé en Chine.
Par ailleurs, la Cour suprême indienne a enfin dépénalisé la relation consensuelle entre personnes du même sexe, en ajoutant que toute discrimination sur la base de l'orientation sexuelle viole les droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Ah ben c'était court, ton intervention. Le travail de recherche et de campagne mené par Amnesty pour dévoiler les atteintes courantes aux droits du travail au Qatar constitue un effort continu. Ça aussi, on vous en a déjà parlé, hein, le non-respect des droits des travailleurs immigrés au Qatar. Entre autres pour construire la Coupe du Monde de foot.
Tout à fait.
On va construire les bâtiments nécessaires à la Coupe du Monde de foot. En septembre, les autorités ont annoncé la suppression du visa de sortie pour la plupart des travailleurs migrants. Ce document empêchait ces derniers de quitter le Qatar sans la permission de leur employeur. C'est l'une des premières grandes réformes mises en œuvre dans le cadre du partenariat du Qatar avec l'Organisation internationale du travail. Elle fait suite aux années de travail d'Amnesty qui a notamment révélé des atteintes aux droits du travail sur les sites liés à la Coupe du Monde de football de 2022, comme on vient de vous le dire. Voilà, on vous en lit encore deux et puis on va peut-être se réécouter un peu de musique comme on avait dit. Donc, vas-y.
Alors, le Parlement européen a rejoint les appels d'Amnesty et voté en faveur d'une résolution réclamant l'interdiction internationale des systèmes d'armement totalement autonomes ou robots tueurs. Ce texte vise à empêcher le développement, la prolifération et l'usage de tels systèmes qui peuvent choisir leur propre ciel et tuer sans aucune intervention humaine.
Ça aussi, Edith, vous en avez parlé dans des précédentes émissions, effectivement, le côté inique de l'utilisation des robots tueurs. Alors, Victoire Ingabire, chef de file de l'opposition rwandaise, et Kizito Mihingo, chanteur populaire, ont été libérés de prison après avoir été graciés par le président rwandais Paul Kagame. Bien qu'ils continuent de faire l'objet de restrictions, nous estimons qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Victoire Ingabire, ou Ingabire, je ne sais pas comment on dit, a été condamnée pour avoir exprimé ses opinions, ce qui bafouait sa liberté d'expression. Son droit à un procès équitable n'a pas non plus été respecté. Amnesty exprime des inquiétudes quant à l'affaire de cette femme depuis plusieurs années. Voilà, on écoute un petit peu de musique et on revient vers vous juste après. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc en ce jour de Noël, le groupe Amnesty International d'Evreux, on vient d'entendre Power to the People de Black Eyed Peas. C'était un morceau qui a été choisi par Clara.
Par moi.
Voilà, donc Renan vous piaffe d'impatience pour vous relire encore une bonne nouvelle, notre spécialité d'aujourd'hui, les bonnes nouvelles.
Qui était aussi ma spécialité à l'époque où je faisais l'émission.
Tout à fait.
Israël, le 17 juillet, Abdul Razak Farah a été libéré de la prison d'Ofer après une détention administrative sans inculpation ni jugement de 14 mois. Il est le directeur des finances de l'administration d'une ONG de développement basée à Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés, l'Union des comités de travail agricole. Lors d'un entretien avec Amnesty International après sa libération, Abdul a adressé un message de remerciement à toutes les personnes qui se sont mobilisées en sa faveur. « Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien constant du peuple palestinien et à l'UOWC, donc qui est l'Union des comités de travail agricole. Je vous remercie tout particulièrement pour le soutien et la solidarité que vous m'avez témoigné durant les 14 derniers mois que j'ai passé en détention administrative. Ce soutien confirme que les prisonniers politiques palestiniens ont des vrais amis et sympathisants dans le monde entier. »
Très bien. Clara, on va reprendre notre communication sur l'historique des bonnes nouvelles 2018.
Octobre, à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, le nouveau gouvernement malaisien a annoncé prévoir d'abolir pleinement la peine capitale. C'est le fruit d'années de plaidoyer dans ce pays, y compris auprès d'anciens membres de l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. Dans les jours qui ont suivi, la peine de mort a été qualifiée d'anticonstitutionnelle dans l'État de Washington, qui devient le 20e État abolitionniste des États-Unis.
Alors, on va aller au Vietnam maintenant. La blogueuse Mère Champignon, c'est son surnom, a été relâchée après plus de 2 ans de prison au Vietnam. Alors, il y a son nom en vietnamien, mais là, je vais faire comme Clara, je vais pas vous le lire, hein, parce que là, c'est trop compliqué. Alors, elle était plus connue donc sous le pseudonyme de blogueuse Mère Champignon, et elle est arrêtée le 10 octobre 2016, détenue au secret jusqu'au 20 juin 2017, puis condamnée à 10 ans de prison le 29 juin 2017. Donc, en fait, elle a été libérée, bien qu'étant condamnée à 10 ans de prison, comme quoi la mobilisation avec Amnesty International, ça sert à quelque chose. Alors, attendez, excuse-moi, Clara, parce que j'ai vu un deuxième paragraphe. Cette bonne nouvelle, véritable soulagement après 2 ans derrière les barreaux, ne doit pas faire oublier la tendance croissante à l'incarcération au Vietnam, qui jette en prison quiconque critique le régime, a déclaré Nicolas Becklin d'Amnesty International. Si Mère Champignon n'est plus incarcérée, la condition de sa libération est l'exil et plus de 100 personnes croupissent encore en prison parce qu'elles se sont exprimées sans violence, en public, sur des blogs ou sur Facebook.
Novembre. Après des années de campagne, la haute cour du Gauteng Nord a décidé que le gouvernement sud-africain ne pouvait pas accorder de permis pour exploiter du titane dans la mine de Xolobeni sans l'accord de communautés indigènes. C'est une grande victoire pour la population de Xolobeni qui se bat depuis longtemps pour avoir le droit d'être consultée et de donner ou non son accord quant à l'exploitation minière de ses terres ancestrales.
Ça me fait penser à un des cas qu'on vient de défendre avec les 10 jours pour signer en Afrique du Sud, la Nonlé, enfin j'étais avec son prénom parce que j'ai oublié son nom de famille, qui se bat aussi pour éviter effectivement un projet de mine dans son pays. Alors, ah oui, mais c'était là décidément, vous excuserez, mais c'est Noël, hein, donc effectivement, voilà, on est un petit peu perturbé, parce que le paragraphe qui suit, c'était aussi à Clara de vous le lire, c'était la suite.
Je reprends, je cite, « Nous vivons dans une zone magnifique et en paix où nous partageons toute la nourriture, la terre et l'amour. Les élites ont découvert ce que nous avons et auraient dû nous le prendre », a déclaré Nonlé voilà,
c'est elle dont je vous parlais. Voilà.
Elle s'appelle Nonlé. Oui. Défenseur des droits humains issu de la communauté Amadiba. Certains de mes collègues ont été tués et je sais que ça pourrait être mon tour, mais je n'ai pas peur.
Alors, la proposition de placer le droit suisse à l'enchange du continent au-dessus du droit international a été rejetée lorsque les Suisses ont voté pour défendre le droit international lors d'un récent référendum. Le peuple suisse a montré qu'il n'était pas tombé dans le piège de fausses promesses. Il a plutôt choisi les urnes pour clairement faire comprendre qu'il ne peut vivre dans une société où les droits humains s'applique à qu'il peut vivre, qu'il veut vivre, pardon. Je reprends tout. Hein. Excusez-moi, c'est le jour de Noël, on a fait la fête hier soir. Il a choisi les urnes pour clairement faire comprendre qu'il veut vivre dans une société où les droits humains s'appliquent à tous. Et c'est une phrase de Kumi Naido, qui est le secrétaire international d'Amnesty. Et nous arrivons au mois de décembre, mais là, c'est Clara qui va vous en parler.
En décembre, nous avons publié le rapport Notre Impact et ce qu'il reste à faire pour célébrer les accomplissements d'Amnesty l'année dernière et les personnes courageuses qui ont contribué à rendre cela possible. Mais surtout, nous avons saisi l'occasion pour nous d'interroger sur ce qu'il reste à faire et rendre hommage à ceux et celles qui continuent de se battre face aux injustices.
Voilà, donc c'était ce qu'on voulait vous dire principalement aujourd'hui, en ce jour de Noël. Donc toute une série de bonnes nouvelles, d'avancées, de modifications des lois, de libération de prisonniers, etc. Et ce qui est bizarre, je me dis toujours à chaque fois, ça fait jamais la une de l'actualité sur des journaux, des grands médias, France 2, TF1 et compagnie. Ils commencent jamais par nous parler de tout ça. Pourtant, ça donnerait une autre vision aussi de l'humanité, de dire qu'il n'y a pas que des drames, des catastrophes, des guerres dans le monde. Il y a aussi... ou des compromissions politiques ou des scandales à répétition, il y a aussi des gens qui retrouvent la liberté, des gens qui retrouvent leur famille, des droits qui avancent. Voilà. Donc c'est important aussi de vous en parler ici à la radio.
Et vu que c'est Noël, je pense qu'on peut passer une petite musique.
Voilà, on va repasser un troisième morceau.
Seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. And shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above. I've only known careless love. It's always hit me from below. But this time around, it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, queen and slaves. Crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me with too much love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue river running so lazy. Stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad. Relationships have all been bad. Mine have been like for lengths in rainbow. But there's no way I can compare all those things to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. Make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco, Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. I'll see you in the sky above. In the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Oh, you're gonna make me lonesome when you go. Oh, you're gonna make me lonesome when you go.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux, pour cette émission du 25 décembre. Joyeux Noël. On vient d'entendre donc sur une autre compilation en soutien à Amnesty, un quadruple CD sorti il y a déjà quelques années. C'est un CD de chansons de Bob Dylan qui s'appelle Chimes of Freedom. Et on vient d'entendre, tiré de ce disque, Miley Cyrus, ou Cyrus, je ne sais pas comment on prononce.
Cyrus.
Cyrus. Et le titre, c'est « You're gonna make me lonesome when you go ».
Et savoir qu'une partie des morceaux musicaux ce soir a été choisie par Clara.
C'est Clara qui,
c'est
a, choisi, qui a choisi vos morceaux musicaux. Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Et donc, on avait dit jour de Noël, jour des bonnes nouvelles, jour des cadeaux. On a encore quelques cadeaux pour vos oreilles. Et il y a Renan qui va vous en lire un.
Ouzbékistan.
Ah, je vais l'aider. Ouais, je vais l'aider, le pauvre
facile,
Renan.
C'est pas facile. En mai, un tribunal a prononcé à l'encontre du journaliste ouzbek Boromurod Abdoulayev.
Faut pas dire les noms de famille, j'avais bien raison.
Ouais, mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Faisant les bonnes nouvelles, c'est toujours des noms à tirer. Voilà. Il a prononcé à l'encontre du journaliste une peine non privative de liberté et il a pu sortir libre de la salle d'audience. Une délégation d'Amnesty International a pu le rencontrer à Tashkent le 24 mai et il a déclaré « Pendant les 7 mois et demi que j'ai passé dans les cachots, j'ai senti le soutien des autres journalistes et militants des droits humains, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Cela m'a fait du bien de voir des représentants des ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne à mon procès. Le fait que je sois libre aujourd'hui est en grande partie dû à ce soutien. Mon corps a montré une nouvelle fois combien la solidarité et l'attention sont importantes pour protéger la liberté d'expression et des droits humains. J'admire votre généreux travail et votre infini courage, chers militants. » Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, surtout pour l'année prochaine, pour lancer quand même un appel que l'entraide, c'est quand même important.
Ben c'est clair. C'est clair et ça va tout à fait dans droite ligne et dans le fil de ce qu'on vous dit depuis le début de cette heure. C'est important d'agir et c'est important de savoir ce qu'on obtient. J'avais préparé pour aujourd'hui, mais on s'en servira pas parce qu'on n'aura pas le temps, tout un petit historique qui est sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, parce qu'on vient de fêter ce mois-ci le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est notre principal texte de référence pour nos combats. Et j'avais préparé une présentation de l'historique de cette déclaration universelle avec quelques grandes dates clés sélectionnées par Amnesty qui est très bien fait. Donc je vous renvoie sur le site si ça vous intéresse. Mais je vais quand même improviser un petit quiz là puisqu'il nous reste encore 2 minutes avant la fin de l'émission. Je vais avec Clara et puis Renan. Ils sont pas du tout au courant, hein, je viens d'avoir l'idée.
Je viens de quitter le studio là.
un petit quiz très simple. Mais si. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 décembre 1948?
C'est la déclaration.
Voilà. La déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée à Paris par la toute nouvelle ONU, Organisation des Nations Unies, qui avait été créée en 1946 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement. Alors je vais peut-être vous poser des questions un petit peu plus pointu, on va aller.
Il rigole tout seul.
Je rigole parce que... Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 1984? Là, je suis sûr que vous n'aurez pas dans cet historique retracé par Amnesty. Qu'est-ce qui s'est passé en 1984? Je suis presque sûr que vous n'aurez pas la réponse.
Bah, moi, je sais que je rentrais en seconde.
Tu es rentré en seconde, oui.
Voilà. Non, mais tu demandes qu'est-ce qui s'est passé, moi, en 1984.
Je pense que Clara n'était pas née.
Je n'étais pas née. Bah, voilà. Je ne sais pas du tout.
Non, ce n'est pas les bonnes réponses.
Non, c'est... Enfin, si, quand tu rentres en seconde, c'est la bonne réponse pour toi. Mais en 1984, a été adoptée la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien dire que tout ça, c'est des évolutions récentes. Hein, c'est pour ça que je vous en parle. 1984, jusqu'en 1984, la torture n'était pas assimilée à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et donc, ça a permis effectivement de développer la lutte contre l'impunité. C'était le fruit d'années de campagne et de plaidoyer d'organisation de la société civile et en premier lieu d'Amnesty International, qui avait déjà fait deux grandes campagnes pour l'abolition de la torture, la première en 1972 et la deuxième, cette année-là, en 1984. Et on rappelle qu'il y a deux ans, je crois, de mémoire, on a refait encore une campagne pour l'abolition de la torture, parce que même si la convention a été adoptée en 1984, la torture reste bien trop souvent utilisée pour réprimer les peuples à droite et à gauche. Voilà. Une dernière question. On a encore le temps ou on n'a pas le temps ?
Alors, vas-y. Je suis chaud, là.
Ah, là, je vais quand même vous en lire une. Je suis en train de rechercher la bonne page. Mais là, je pense que Roland, il devrait avoir la réponse, quand même.
Ah, tu mets la pression, là. Le lendemain de réveillon, tu mets la pression.
Ah, voilà. C'est beaucoup plus récent. Et là, Clara était née. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ?
Ah oui, j'étais née, quand même.
En 2014.
C'était l'adoption, je vous ai dit, l'adoption du traité sur le commerce des armes.
Voilà, ouais.
Le TCA. Voilà,
et pourtant, j'en parle souvent.
Qui a été adopté, là aussi, à l'ONU en 2014. Et bien sûr, maintenant qu'il a été adopté, il reste, et ce n'est pas le plus simple, à le faire appliquer.
Tu m'aurais dit qu'est-ce qui s'était passé en 2011 ?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas, il n'y a pas une histoire de 50 ans ?
Ah oui, c'était les 50 ans d'Amnesty International.
Je t'ai eu.
Mais c'est pas dans l'historique.
C'est mon quiz à moi.
Dans l'historique.
C'est
bien.
Mon quiz à moi. Bah, je pense que c'est peut-être le moment de...
On en reparlera. Juste deux, trois infos locales pour finir. Donc, le samedi 26 janvier à 17h, on sera au Tangram pour le spectacle Les Discours de Rosemary, samedi 26 janvier, 17h. Qui parle de politique, d'adolescence et de démocratie. Et on espère que l'antenne jeune, on en reparlera avec Clara, que l'antenne jeune de lycée Aristide-Briand sera avec nous. Le thème, c'est comment accompagner les jeunes dans la compréhension du monde qui les entoure. Samedi 26 janvier, 17h, collaboration avec le Tangram au Cadran. Et le samedi 2 février, on vous rappelle qu'on a une soirée amnistie, conférence sur l'esclavage aujourd'hui et concert avec le groupe guadeloupéen, le groupe de rock blues Delgrès, samedi 2 janvier, réservez votre soirée. Enfin, il y a une expo qui a été faite par Amnesty International Louviers sur le 70e anniversaire, on vous en reparlera. Et notre prochaine émission, c'est quand ?
Ce mois de janvier.
Le mardi 15 janvier, on se retrouve à 19h sur l'antenne. Bonne fête de fin d'année à tous.
Bonne fête.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres.